Et bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Fréquence Mistral, vendredi 24 septembre. C'est l'émission spéciale autour des correspondances à Manosque, édition 2021, une émission proposée et animée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et dans cette troisième émission des correspondances 2021, nous allons parler littérature, bien évidemment. Nous allons parler aussi écriture publique et puis nous parlerons dessin et nous irons faire une petite promenade du côté de la Mésopotamie. Olivier Chaudançon, troisième journée des correspondances, les auteurs sont déjà sur les planches.
Oui, des planches multiples, on s'intéresse aux adolescents ce matin, et deux auteurs leur parlent actuellement, Sylvain Patieu d'une part et Mariam Majdi d'autre part. Mais il se passe plein de choses ce matin, il y a les apéros littéraires évidemment, il y a aussi au Paraïs, chez Jean Giono, une rencontre avec Emmanuel Guibert qui est un fin connaisseur de l'œuvre. Et puis début d'après-midi, ça démarre très vite, le karaoké littéraire à 14h, la sieste littéraire à 14h30, des rencontres à 15h, Déborah Lévy et Catherine Safonoff. Déborah Lévy, c'est un petit événement qu'elles viennent, c'est une Anglaise, une Britannique. Son livre sort le 6 octobre, je crois. Son éditeur a fait en sorte qu'elle vienne un peu avant et avec le livre disponible dès à présent à Manosque. C'est aussi une façon de fêter les 10 ans d'une très belle maison qui s'appelle les Éditions du Sous-Sol. Et donc, ce sont les éditeurs de Déborah Lévy, Catherine Safonoff étant, elle, suisse. Autre choix à 15h, Christophe Boltanski, qui dialogue avec Christine Montalbetti. Et puis 16h30, on choisit la tonalité qui nous va le mieux, Claudine Desmarteaux et Laurent Nunez. Là, il y a beaucoup de fantaisie littéraire et de drôlerie. Natacha Apana, très beau livre, pas drôle, mais poignant. Et puis Alexandre Labruf et Laura Vasquez, là on est dans l'étrangeté, à vous de choisir. À 18h, c'est carrément la fonte des glaces, puisque Thomas Reverdy, avec Climax, nous parle en effet de la fonte de la banquise et des catastrophes qui peuvent s'en suivre, mais dans une fiction passionnante avec des personnages très vivants. Et puis Emmanuel Salasque, que l'on connaît aussi sous le nom d'Emmanuel Pagano, la développe sa fiction sous un glacier qui développe à son intérieur une poche d'eau et cela menace de rompre. Donc on est quand même un peu inquiet de ce réchauffement climatique dans ce plateau-là. Et puis dans la petite salle du théâtre, Charles Berberian qui a fait un album absolument magnifique, des dessins splendides, beaucoup de drôleries sur Gilgamesh. Et il vient pour lire quelques extraits, pour dessiner, et pendant qu'il dessine, il a choisi de se faire accompagner par François Atlas, Atlas on the Mountain, ça c'est le nom du groupe, et là François Atlas est en solo, je pense que ça va être absolument splendide. En soirée, une grande habituée des correspondances, Maïlys de Kerangal, qui a clairement pris le goût de la scène, et qui vient lire des extraits de son dernier recueil de nouvelles Canoë, accompagné de deux musiciens, Cascadeur et Médéric Collignon, immense musicien de jazz. Et on finit la soirée avec deux chanteuses, Messia et Laura Cahin, une lectrice, Lou, qui est également chanteuse, qui vont à L3 évoquer une écrivaine italienne qui est en train de devenir une star posthume. Elle s'appelle Goliarda Sapienza et on ne cesse de la republier. Il y a un phénomène de lecteurs qui deviennent une communauté fervente. Voilà, donc on fait connaître, après sa mort, l'œuvre de Goliarda Sapienza.
Le programme du jour par Olivier Chaudançon. Ne ratez pas les correspondances à Manosque, il y a beaucoup de choses, vous l'avez entendu, et beaucoup d'animations et beaucoup d'auteurs qui sont invités. Et c'est un auteur que l'on connaît bien ici même sur Fréquence Mistral, qui est notre premier invité. Il s'agit de Charles Berberian. Bonjour Charles.
Bonjour.
Dessinateur invétéré de talent et qui a produit un livre extraordinaire, Les Amants de Chamath. C'est une bande dessinée et c'est une bande dessinée avec une vision très particulière et très, avec un angle très spécial sur l'épopée de Gilgamesh, évidemment un texte, en tout cas une histoire très connue, célèbre. Charles, comment vous est venue cette idée de parler des amants de Chamath, autrement dit de Gilgamesh et Enkidu?
J'ai commencé par tirer sur le fil grâce à un personnage qui s'appelle Ebi Hill, qui est un intendant de l'époque, pas vraiment de l'époque Gilgamesh. Ebi Hill, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Gilgamesh, ça serait 4000 ans. Donc en tirant sur le fil, j'arrive sur Gilgamesh. Et Gilgamesh qui est deux tiers divin, un tiers humain ou le contraire. Donc ça, ça m'amuse. Je me dis, j'ai envie de faire quelque chose à partir de ça. Mais en tirant encore sur le fil, je tombe sur Chamath. Et là, sa position à elle par rapport à Gilgamesh m'intéresse beaucoup plus. Et puis, je fais ma petite tambouille et je trouve une histoire qui me plaît, mais en fait, un triangle à trois, en fait. Le fameux triangle à trois qui nous a ravis à travers des films comme ou des romans comme Jules et Jim. Je ne vais pas citer tous les exemples, mais c'est voilà. Une fois que j'ai fait ce choix de travailler la légende, mais par le filtre de ce triangle à trois, je savais que déjà moi je m'amuserais et qu'éventuellement les lecteurs et les lectrices par la suite s'amuseraient. Oui.
Je confirme, merci. On s'amuse et on rigole de temps en temps, même si l'histoire parfois est très cruelle, hein. il y a des moments particuliers. Alors il y a quelques phrases, moi, et puis il y a une manière de s'adresser à ce demi ou trois quarts dieu qu'est Gilgamesh de la part d'un public et de serviteurs extrêmement serviles et attentionnés. Par exemple, très souvent on entend « votre splendeur, rayonnante majesté, très vénérable et sublime autorité divine, suprême majesté, etc. etc. » Et puis de temps en temps, le Gilgamesh en question, qui est un sacré coco quand même, il est très cruel. Il est cruel, bon, c'est l'un des penchants du pouvoir, malheureusement, et l'actualité nous le prouve aussi actuellement. Quelqu'un qui vient le voir et puis qui se plaint un petit peu d'un petit souci, ben, il dit à ses serviteurs, il dit « coupez-lui la tête afin de le libérer de la douleur qui étreint son cœur ». Vous l'avez inventé ça, Charles ?
La cruauté de Gilgamesh, non, je ne l'ai pas inventée. C'est un personnage qui semait la terreur, qui régnait par la terreur. Et donc moi, j'ai juste brodé là-dessus. Après, je trouvais des phrases pour montrer un personnage qui se pense bienveillant, en fait. Qui pense faire le bien en torturant ses contemporains.
C'est ça, il va le libérer du mal, ben ouais. en lui coupant la tête. Ouais. Quoi. C'est vrai.
Ou, par exemple, il lui prend toutes ses richesses, parce que les richesses, bah, ça, c'est pesant, en fait. Ça rend pas heureux. Et donc, lui, il prend sur lui cette espèce de malheur d'être trop riche, trop gras, trop... Voilà. J'aimais bien cette idée que ce type-là se prend pour un dieu et en plus quelqu'un de parfait, de gentil.
Alors il y a évidemment ce personnage central qui est Chamath et ses deux amants, donc Enkidu et Gilgamesh. Oui. Bon, il y a des dialogues aussi. Alors il y a quelques dialogues quand même dans votre bande dessinée, Charles, avec des dialogues pas piqués des vers, notamment de la part de Chamath, qui s'adresse par exemple à Gilgamesh et qui lui dit « mon bichon ». Alors déjà, ça, « mon bichon », c'est particulier, ouais, mais c'est une traduction personnelle, si j'ai bien compris, hein, Charles. C'est
Je suis sûr qu'ils utilisaient des mots tendres à l'époque.
Comme celui-ci, mon bichon. Quoi.
Les choses n'ont pas tellement changé, en fait.
Alors, je continue ma citation. Mon Bichon, alors c'est après avoir fait un petit peu d'exercice à deux, si vous voyez ce que je veux dire. Mon Bichon, tu sens un peu trop fort la transpiration. Et ma transpiration te gêne ? Pas du tout, c'est juste que tu transpires beaucoup pour un dieu, je trouve. Il y a une innocence et il y a quelque chose de... C'est très drôle.
Elle le remet à sa place et lui se laisse faire en même temps qu'il la trouve un peu trop sûre d'elle-même. Quoi. Ça commence à lui peser. Et c'est autant cette attirance vers elle, hein, cette domination qu'elle a sur lui finalement, qui l'embête, que le fait qu'il perde de sa superbe à chaque fois qu'elle le regarde. Mais en même temps, ça le rend humain. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire que faire le chemin de la légende vers l'humain. Parce qu'en fait, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est ce qu'on arrive à faire en tant qu'être humain pour s'élever ou se transcender, mais sans passer pour des dieux. Et du coup, Shamat, elle a cette fonction-là dans cette histoire, c'est d'être vraiment les pieds sur terre et d'essayer de s'en sortir et d'éclairer finalement tout ce qu'il y a autour d'elle par cette humanité.
C'est bien, avec ce mot éclairer, vous me faites une transition très intéressante sur justement le dessin et les aquarelles qui ponctuent votre livre. Il y a relativement peu de couleurs, en fait, dans Les Amants de Shamat, mais c'est au Louvre Édition, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc
Et Futuropolis.
Futuropolis, d'accord.
Oui, c'est une coédition, en fait.
Très bien. Ouais. Merci de la précision, Charles.
Non, mais c'est...
Bien sûr, c'est important, très important. Et donc, je disais, il y a relativement peu de couleurs, mais les couleurs vous servent, et vous les utilisez formidablement bien.
Merci.
Pour donner des ambiances en fonction des scènes. Alors, il y a des scènes cruelles, des scènes de poétiques, très poétiques aussi. Il y a des paysages avec un petit peu de bleu, tout petit peu de rouge de temps en temps, mais ça vient vraiment à bon escient, quoi. Et merci. Ça, c'est une bonne chose. Ce sont des tableaux, en fait. Chaque fois que vous faites une bande dessinée, chaque planche est un tableau.
C'est gentil. Je vais repartir d'ici sur un petit nuage.
Je vous remercie, mais surtout pas de pluie, c'est pas pour les correspondances. Hein. Non, Charles, c'est sincère, vous le savez, on se connaît depuis quelques
c'est
temps.
C'est vraiment très gentil à vous.
C'est en même temps un livre qui nous apporte beaucoup par sa drôlerie, par ses beaux dessins, et puis par ses trois personnages très très étonnants, très très particuliers. Il y a beaucoup aussi de sexe aussi dans ce livre. Alors. On ne peut pas en parler, il n'est pas 22h30. Vous savez, en radio, on est tenu à certaines règles. Mais en tout cas, bon, il y a pas mal de choses croustillantes dans votre livre. Les Amants de Shamat, c'est Charles Berberian. Vous avez une actualité. Tout à l'heure, vous avez une rencontre dans le cadre des correspondances.
Alors, c'est un concert dessiné avec François Atlas, François des Atlas Mountain. Donc, on va faire un concert dessiné autour des Amants de Shamat avec des chansons choisies dans le répertoire de François qui traitent des mêmes thèmes, à savoir l'amour, la trahison, la distance qu'on n'arrive pas à combler parfois avec une personne qui nous est chère, des thèmes éternels. C'est ça qu'on retrouve aussi dans les légendes en général et dans celle de Gilgamesh.
Donc rendez-vous tout à l'heure à 18h, c'est à la petite salle du théâtre Jean Le Bleu.
C'est à la salle Jean Le Bleu.
À la salle
là où ont lieu les siestes acoustiques.
Donc petite salle de la salle Jean Le Bleu.
La salle Jean Le Bleu, c'est la grande salle
aussi. Le grand théâtre, voilà,
je savais
c'est
pas.
Ça. C'est ça.
Ouais, okay.
Et puis Jean Le Bleu, pour un dessinateur, bleu, c'est normal, quoi.
J'adore ce roman de Giono. Je l'ai offert à François. J'ai trouvé une édition en poche avec une couverture très laide. Mais le roman est absolument magnifique. Et en fait, les aquarelles dont vous parlez dans le livre, c'est en lisant Colline, je crois que c'est le premier bouquin de Giono que j'ai lu, où j'ai eu ces visions de couleurs et tout, et je ne savais pas utiliser l'aquarelle avant. Et c'est Giono qui m'a donné envie d'utiliser les couleurs.
Alors, si vous fermez les yeux sur les toits de la rue Grande à Manosque, peut-être que vous entendrez la flûte de Décidément et de Madame la Reine. Qui sait ?
Qui sait ?
À voir. C'est un des mystères de Manosque. Merci encore,
merci
Charles, d'avoir été mon invité. Puis à très bientôt. Bon festival à Manosque. Je sais que vous êtes un curieux. Et puis, je sais aussi que vous avez des amis ici, même à Manosque, depuis le temps que vous venez. Et c'est une excellente chose.
Merci
Bonne journée
beaucoup.
À vous. À bientôt.
À bientôt.
Deuxième invité, Cécile Coulon, nous allons parler de votre livre. Cécile, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être mon invité. Nous allons évoquer avec vous Seul en sa demeure, l'iconoclaste, c'est la maison d'édition. C'est un récit qui nous plonge dans la France profonde de la fin du 19e, début du 20e, on ne sait pas très exactement, et puis ça n'a pas trop grande importance. En fait, on est plongé dans un milieu de propriétaires terriens où subsistent les règles sociales d'un autre temps. Le personnage principal, c'est Aimée, c'est son nom, c'est une femme, une jeune femme. Elle va épouser Candre, c'est aussi son nom, puis va quitter sa demeure parentale pour celle de son mari. Elle y vivra une ambiance étouffante faite de mystères et de non-dits jusqu'à la rencontre d'une musicienne qui éclairera son avenir, la fera fuir pour aller à la rencontre d'autres mystères. Cécile, comment vous êtes-vous imprégnée de cette ambiance terrienne et victorienne, diraient nos amis anglais ?
Il y a eu plusieurs choses. D'une part, moi j'ai toujours écrit un roman en commençant par un lieu, en partant du principe que le personnage principal, c'était l'endroit où se déroule l'histoire. Et c'était déjà le cas pour Une bête au paradis, c'était le cas pour Trois saisons d'orage. Et là, je suis allée dans le Jura il y a quelques années dans le cadre d'un festival. Et j'ai traversé de nuit les mines salines d'Arc-et-Senan, qui sont les mines royales de sel, et qui sont entourées d'une forêt absolument fabuleuse. Et je me suis dit, c'était au mois de novembre, je me suis dit que c'était un décor absolument parfait pour un roman. Et 7 ans plus tard, cette idée est revenue. C'est tout à fait naturellement rallumé et je me suis dit d'accord, donc dans cet endroit, dans ce domaine de Monsieur Marcher, au milieu de la forêt du Jura, qu'est-ce qui va se passer ? Et j'ai délocalisé mon histoire au 19e siècle pour une raison assez simple qui est que j'ai commencé à écrire ce livre au moment du confinement, du premier confinement. Et je pense que j'ai eu besoin de me faire voyager toute seule. C'est-à-dire pour moi, c'est comme une capsule, quoi. Je me suis dit, en écrivant ce texte qui se passe loin de moi dans le temps et dans l'espace, j'avais la possibilité, à mon bureau, de créer une sorte d'univers qui a évidemment existé, mais qui correspond à une sorte de fantasme. Donc j'ai travaillé comme ça. Et puis, il y a évidemment toute la littérature française du 19e siècle, et anglaise, qui a été un canevas incroyable.
Donc c'est vrai qu'au niveau du style, on retrouve peut-être une ambiance littéraire, en tout cas, avec des descriptions, avec des non-dits aussi. Il y a beaucoup de non-écrits, comme vous voulez, qui parsèment un petit peu votre livre. Et puis il y a ces personnages, alors ces personnages particuliers, toute une myriade de personnages qui gravitent autour des deux personnages centraux que sont Aimée et Candre. Mmh. On va dire un faux couple. Ça vous y va comme
En tout cas, c'est, ou alors un couple arrangé. C'est-à-dire que c'est c'est pas un mariage forcé, c'est un mariage arrangé d'une jeune fille qui est fille unique en 1880 et qui doit aussi sauver sa famille, son père et sa mère de la ruine qui arrive doucement. Et en fait, elle se marie à un homme qui est riche, mais qui est aussi très doux, très calme. C'est un homme qui est pieux, qui n'est pas violent. Donc, c'est le meilleur parti de la région. La question qui va venir très très vite, c'est la question du désir. Mais je pense que cette question du désir, elle est encore très très présente aujourd'hui. Et moi, en écrivant ce texte, ce qui m'a le plus heurté à la fin de l'écriture, c'est que je me suis rendu compte que les questions que se pose une jeune fille de 18 ans en 1880 sont quasiment les mêmes en 2021. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé là-dessus.
On va reparler de cette actualité, j'allais dire entre guillemets féministe aussi, parce que c'est une tension qu'il y a dans votre livre très importante, avec notamment la rencontre avec la flûtiste, qui fait que Aimée va se découvrir, au sens propre comme au figuré. Dans votre livre, il y a aussi beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, des secrets de famille, des secrets personnels, des choses qu'on devine plus ou moins qui ne sont pas dites jusqu'à la fin, où tout d'un coup le voile est levé sur plusieurs choses sur des morts, sur des personnages ou sur des attentes qui sont créées, etc. C'est voulu aussi ce poids du secret que vous utilisez, Cécile ?
Alors, c'est voulu et c'est nécessaire parce que s'il n'y a pas de secret de famille, il n'y a pas de roman.
Oui, mais là, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
Il y en a dans les deux familles et ouais. Puis ça y va. Hein.
Et ça y va, mais alors là, pour le coup, si je dois faire un très grand parallèle avec la réalité, la vraie vie, comme on dit, je pense que toute famille a ses non-dits, ses secrets, ses choses mal racontées, ses choses peu racontées. Et c'est comme ça qu'on bâtit des légendes, c'est comme ça qu'on bâtit des enfants, des adolescents et des hommes. Et c'est comme ça qu'on creuse des fêlures aussi. Et c'est aussi toute la matière première d'un roman et d'une fiction. Donc c'est vrai que moi, je me suis beaucoup amusée avec ça, parce qu'on est avec ces deux familles dans un endroit, et encore une fois, je reviens sur le lieu, ils sont prisonniers de ce lieu. Ils n'en sortent pas de cette forêt, ils ne peuvent pas en sortir, à part faire 4 heures de voiture à cheval, on ne peut pas en sortir. Donc ce qui se passe de génération en génération dans cet endroit est à la fois su de tout le monde, mais personne n'en parle. Et ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des traumatismes intergénérationnels ou transgénérationnels, pour parler avec des mots un peu savants, mais qu'est-ce qui fait que quand tout le monde est au courant d'une chose terrible, mais que cette chose terrible continue à se propager de génération en génération. Pour moi, c'est une question très importante dans la société dans laquelle on vit. Et je ne sais pas si une fiction va répondre à cette question, mais en tout cas, elle va tourner autour pour dire mais quels sont les ressorts psychologiques qui font que ces personnages, sachant ce qui se passe, ne bougent pas face à ce qui se passe.
Et effectivement, il y a beaucoup de morts, il y a des mutilations aussi, il y a des animaux aussi qui transmettent des messages. C'est assez étonnant, mais c'est vrai qu'on est en zone rurale, hein, donc aussi bien les chiens que les chevaux ont un rôle à jouer dans votre roman, même s'il est même pas secondaire, il est peut-être tertiaire, peu importe. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Et puis, je voudrais revenir, moi, sur cette personnalité de Candre, qui est quand même le personnage principal. Il est marqué par la mort de sa mère, sa mère qui meurt brutalement dans une église. On va reparler des églises peut-être dans un instant. Mais Candre, donc, elle comprend au bout d'un moment, Aimé, que son caractère est très, très particulier. Et elle le dit, et ce n'est pas au début de sa relation avec Candre. Au contraire, c'est quasiment à la fin où elle a vu que le masque était tombé. Et donc, voilà ce qu'elle dit. À propos de Cambre, il n'était pas homme de coups, de scandale ou d'éclat, mais il était maître des lieux, maître du corps des autres. Il désignait, choisissait, détruisait en un seul geste. Il exerçait sur ses sujets une terreur antique. Cambre Marchère ne frappait pas. Il ordonnait qu'on frappe pour lui, qu'on tue pour lui. Il était au-dessus de tout, du sang, des os brisés, des pommes bleuies. Il vivait proche de Dieu, et si Dieu disait qu'un tel était mal conduit, la punition tombait. Candre vivait selon des lois qui ne pouvaient être appliquées sur terre.
Et voilà.
C'est très fort.
c'est très fort,
mais c'est vraiment... Oui, c'est ce que... Ça aurait plu à Charles Berberian, effectivement. C'est le maître absolu.
Absolu. C'est le maître absolu.
Qui, en plus... va dans des églises et qui pratique et qui est un fervent pratiquant.
Mais c'est parce que c'est un fervent pratiquant que c'est le maître absolu, parce que c'est quelqu'un... Moi, j'aime beaucoup ce personnage, pour un tas de raisons.
Il est magnétique, très curieux.
C'est mon personnage préféré, c'est le personnage qui a été le plus intéressant à construire. Mais comme c'est un homme qui il n'est pas du monde des vivants, il est du monde de Dieu, il est du ciel déjà, et donc il vit selon des lois qui ne sont pas les nôtres. Et vivant selon des lois qui ne sont pas les nôtres, on ne le comprend pas, personne ne le comprend. Tout le monde se dit, mais comment cet homme qui a des semblables peut ne pas leur ressembler à ce point-là? Et c'est aussi ce qui va attirer Aimé vers cet homme-là, de se dire, d'accord, il n'y a peut-être pas de désir, mais il y a une attirance. Et que l'amour puisse naître d'une chose qui ne vient pas du corps, ça me plaît aussi.
En même temps, c'est l'amour inconnu pour Aimé, parce qu'elle va découvrir certaines choses. Et peut-être que ce n'était pas le personnage qu'il fallait pour découvrir l'amour. En tout cas, ça, vous le verrez en lisant votre livre, Cécile. Et puis, vous parlez... Alors, on a parlé des églises hier dans une rencontre publique à Manosque, sur une scène. Vous avez dit votre fascination pour les églises, mais une fascination très particulière. Expliquez-nous. Les lieux de culte, plutôt.
Étant né à la campagne, les églises sont partout. Ce sont des repères géographiques. On va d'un village à l'autre. Ce qu'on voit, c'est le clocher. Donc ça, c'est une première chose. Ou le château d'eau. Voilà, c'est les deux repères géographiques. Et si on était en Bretagne, ce serait des phares. Moi, j'ai toujours eu cette fascination-là, parce que même dans l'enfance, l'église était un lieu de refuge, de calme, de très grand apaisement. En revanche, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, les lieux de culte, ça peut être des églises, ça peut être des temples, ça peut être des synagogues ou autres.
Des mosquées.
C'est dès qu'elles sont remplies. Parce que dès qu'elles sont remplies, elles sont remplies par des âmes qui ont besoin absolument de dire, de parler et d'asséner leur ordre religieux. Et moi, ça me gêne qu'on ait des lieux si beaux pour des mentalités si fermées, en fait. Ou en tout cas, sur des langages qui sont encore trop étroits pour des idées aussi larges et aussi vastes. Et quand je parle du langage, je parle du mien aussi. On n'a pas assez de mots ou alors le langage ne suffit pas pour expliquer ce que c'est que de croire en quelque chose de plus fort que nous. Ça ne suffit pas. Or, dès que vous mettez plus d'une seule personne dans une église, ça prend le dessus, le langage prend le dessus, et c'est dommage parce qu'on est submergé par la beauté esthétique, et parfois c'est bien de se laisser submerger sans rien dire.
Alors la beauté esthétique, effectivement, c'est l'église où s'ouvre votre roman, avec la mort brutale, on ne sait pas de quoi d'ailleurs elle est morte, la mère de Candre. Candre avait 5 ans, et puis il y a un éclairage très particulier qui est donné par les vitraux, et là on sent qu'effectivement ce côté esthétique vous a touché dans ces lieux de culte, et on sent une expression avec un drame, hein, un gamin de 5 ans qui voit sa mère mourir, c'est assez, assez surprenant, et il sera marqué toute sa vie d'ailleurs par cette scène particulière. C'est une scène de cinéma, Cécile.
C'est une scène de cinéma parce que je pense que j'ai un apprentissage de l'écriture qui est un apprentissage cinématographique qui est extrêmement important pour moi, autant dans les livres, les films qu'on a pu montrer enfant, que dans les études que j'ai suivies au collège, au lycée, puis en classe préparatoire, qui a toujours tourné autour du cinéma, des films, de comment on écrit, comment on monte, comment on parle d'un film, comment on le commente, comment on le dissèque. Et ce furent des études incroyables et incroyablement enrichissantes surtout. Donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, j'ai tendance à voir mes scènes avant de les écrire et à essayer de les faire voir, plutôt qu'à essayer de les faire comprendre.
Donc, ça n'est pas tout à fait un roman du fin 19e siècle, puisque le cinéma est né en 1890. Donc,
on n'est pas loin.
On peut pas dire. Oui, on n'est pas loin, c'est vrai. Mais enfin, l'arrivée du train en gare de la Ciotat, c'est après votre roman.
Absolument.
Donc, trêve de plaisanterie. Cécile, c'est un livre aussi où il y a un personnage extrêmement important, c'est une flûtiste, Emmeline, qui va faire découvrir les secrets à Aimé, les secrets de famille, donc tous ces non-dits, toutes ces frustrations terribles. On ne va pas dévoiler la fin, évidemment, mais il y a un côté féministe dans votre livre. Elle va d'ailleurs, et la première rencontre avec Emmeline est marquée par le désir, vous en parliez tout à l'heure.
Tout à fait, en fait ce qui se passe c'est que cette professeure de flûte baroque va venir dans ce domaine pour donner des cours de musique à Aimé, et dès le premier cours elle va lui expliquer comment on se tient droit, comment on fait venir le souffle d'en bas, comment il faut sentir chaque partie de son corps, comment il faut ouvrir la poitrine, comment il faut ouvrir son cœur pour que l'air circule.
Et elle va la toucher.
Elle va appuyer sur son dos avec le plat de la main très très fort. Elle va vraiment l'obliger à se tenir. Et ça, les gens qui font du sport ou de la musique le savent très bien. Qu'il y a l'ouverture du corps pour un art, c'est quelque chose de fondamental. Et Aimée va comprendre à ce moment-là qu'elle est bien plus qu'un ventre, parce que ce qu'on attend d'elle dans cette maison, c'est de faire un enfant, c'est de porter un enfant. Et là, tout d'un coup, quelqu'un arrive de l'extérieur, en plus, hors de la forêt, et vient lui dire, en vous tenant d'une autre manière, et je vais vous toucher, et vous allez sentir ce qui se passe en vous. Et pour elle, c'est une déflagration physique.
On ne l'a jamais touché d'ailleurs, ni à cet endroit, ni ailleurs, puisque à ce moment-là, je crois que Candre n'a pas encore consommé le mariage avec Aimée. Et en même temps, il y a une complicité féminine qui va se créer entre les deux femmes. Emmeline a vite compris qu'elle était prisonnière en sa demeure et qu'il fallait la sauver. Il fallait la sauver, donc elle arrive à trouver un stratagème très particulier, enfin elle s'enfuit, etc. Là aussi on a des scènes de cinéma et puis ça bouge, alors que c'est un livre où on va dire La moitié de vos pages se passe dans des endroits statiques où on ne bouge pas trop. Il y a 2-3 courses importantes et puis des scènes aussi difficiles avec un enfant, des choses un peu difficiles à admettre, à comprendre, mais c'est le jeu aussi de la littérature et du roman. Ce côté féministe de dire je vais t'apprendre la vie, je vais te délivrer, je vais te libérer, c'est quelque chose qui est ancré en vous ?
Bah, je ne sais pas si c'est ancré en moi. En tout cas, je pense qu'une chose qui est très simple et qui est autant, qui a traversé toutes les générations, moi, dans ma famille, c'est qu'une femme doit être traitée comme un homme et doit traiter aussi les hommes et les femmes de la même manière. Il y a ça aussi. C'est très bien d'utiliser les mots de féminisme, mais demander à être traitée à égalité, c'est aussi traiter les gens. Et sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Donc moi, ce que j'essaye de dire à travers ce roman, et d'ailleurs, si on va, je peux pas dévoiler toute l'histoire, mais ceux qui s'en sortent à la fin, c'est quand même les femmes, quoi qu'on en dise, c'est qu'Emeline, en arrivant de l'extérieur de ce pays où elle est un peu plus libre, elle, mais elle est rigoureusement libre, elle est très sévère dans sa liberté pour pouvoir la garder, ce qu'elle va apporter, c'est l'idée qu'il faut être curieux, qu'il faut aller chercher, qu'il faut enquêter, qu'il faut faire sa propre chance. Elle va peut-être essayer de sauver Aimé, mais elle va lui donner les moyens de le faire.
Il y a un autre personnage aussi important dans votre livre qui est, il est magnifiquement beau, il est handicapé, il a un gros problème, gros souci. Il est angélique quelque part. Ouais. D'ailleurs, il s'appelle Angelin.
Oui, Angelin, c'est le fils de la gouvernante qui vit donc sur ce domaine. Et on parle toujours de lui un peu comme un animal, c'est-à-dire, oui, il est là, mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas méchant. Il ne mord pas. Oui, il traîne un petit peu là, mais vous n'avez pas de souci à vous faire. Moi, ce personnage, c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi parce qu'il fait partie des meubles. Et en même temps, quand il faut se révéler... Il est fort, mais fort au premier sens du terme.
Il sera sauvé d'ailleurs à la fin et c'est une belle chose, mais il gardera malheureusement son handicap. Oui. Ça, c'est irréversible. Il vit aussi des choses très très difficiles avec les métayers, avec les sbires, on va dire ça comme ça, de Candre. Enfin bref, c'est un livre qui est à la fois remuant et puis en même temps qui pose des problèmes et des questions sur... ce qu'était l'Europe, on va dire ça comme ça, puisqu'il y avait la France et l'Angleterre, à la fin du 19e, et en même temps, le poids de la religion, on en a parlé, le poids de la famille, les secrets de famille, etc. Il y a des personnages secondaires aussi qui sont importants, amants, dont la vie est un mensonge, enfin des choses très, très particulières qui sont croustillantes aussi dans votre livre, et on ne sort pas indemne. Et en même temps, on se dit, tiens, on a fait un voyage au 19e.
Bah, c'est que j'ai bien travaillé.
Vous avez beaucoup lu Maupassant ?
J'ai lu, comme beaucoup, je pense, d'écoliers, j'ai plongé dans Maupassant avec La Parure, avec Boule de Suif, et j'ai été assez estomaquée. Et puis j'ai relu ça plus tard, j'ai lu Belle Amie, j'ai lu Le Horla, et je me suis... Et Une Vie, évidemment, de Maupassant, qui est quand même un grand, grand livre, avec Jeanne, son personnage principal. Je pense que c'est une leçon d'écriture, Guy de Maupassant, sur comment on fait pour écrire une histoire qui, 200 ans plus tard, va attraper les gens de la même manière. Et moi, je suis assez sidérée par cette façon, en deux phrases, de poser une époque, de poser une famille, de poser un personnage. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire.
C'est un livre qui sent bon le 19e siècle. Et en même temps, on est plongé dans des secrets de famille qui pourraient être tout à fait actuels. Hein, donc, des situations de femmes oppressées avec des maris qui sont extrêmement brutaux, qui peuvent l'être et qui le prouvent et qui doivent le prouver parce que sinon, ils ne sont pas des maîtres. Absolument. Donc, voilà, on est pris un petit peu dans une spirale et c'est une bonne chose. Donc, seule en sa demeure, Cécile Coulon, merci d'avoir été mon invitée. Votre actualité dans les cadres des correspondances ?
Eh bien, à 14h30, je fais une sieste littéraire.
Quelle chance ! Quelle chance !
Je ne vous le fais pas dire.
Donc, sieste littéraire avec nos amis Bastien Allemand, avec également J.P. Nataf, ouais. Babix. Et vous allez lire des textes, je suppose ?
Absolument.
Un texte de Seul en sa demeure ?
De Seul en sa demeure, oui.
Très bien, très bien. Bah oui, je vous envie de pouvoir assister à ça et de pouvoir évidemment vous produire dans ce cadre-là. À très bientôt, Cécile
Merci
Coulon,
beaucoup.
Et puis continuez à nous transporter dans des époques et avec des personnages magnifiques.
Avec grand
à
plaisir.
À bientôt. Merci encore.
Au revoir.
Une autre invitée qui est à nos côtés, il s'agit d'Alexandra Maillard. Bonjour Alexandra Maillard.
Bonjour.
Vous êtes invitée ici même à Manosque parce que vous avez une actualité très particulière. Vous êtes vous-même écrivaine publique. Expliquez-nous et puis vous allez nous expliquer ce que vous faites à Manosque aussi tout à l'heure.
Alors, effectivement, je suis écrivaine publique.
Vous aimez ce mot que j'ai un peu trafiqué. Écrivain public, ça va, quoi. Mais pour une femme, c'est une écrivaine publique.
Tout à fait, mais je suis écrivaine publique.
Parfait. On est d'accord.
Donc, je reprends l'idée de l'écrivaine publique dans le sens où ce sont des métiers qui existent aujourd'hui, qui vont permettre à des personnes qui ne sont pas forcément lettrées, c'est-à-dire que soit qui ne sont pas lettrées en langue française, soit qui ne sont pas capables d'écrire, d'aller rédiger un ensemble de documents qui peuvent être des documents administratifs, mais aussi des courriers un peu plus personnels. Alors ça a beaucoup plus existé en ce qui concerne les courriers personnels avant l'époque d'Internet. Et moi, je souhaitais réinvestir cet endroit-là en y ajoutant quelque chose qui tient de la poésie du quotidien et de propositions d'écriture à quatre mains, c'est-à-dire d'arriver à écrire en direct avec des personnes qui souhaitent s'installer à ma table et écrire.
Alors, quand vous dites écrire à la place des personnes, ça peut être des lettres administratives, des lettres d'amour, des lettres d'insultes, c'est tout ?
Des lettres de dénonciation, des lettres
par
de résiliation,
aussi,
des listes
pas
de courses.
Ou signer, parce que bon, la délation, ça va, quoi, mais il faut signer les lettres. Comment
Alors,
ça se passe, si jamais
elles peuvent être signées dans la mesure où les gens le souhaitent. Maintenant, on va considérer que l'idée n'est pas tant que chacun écrive sa lettre, mais que nous produisions ensemble quelque chose qui fait texte. Alors,
donc il y a
du
un conseil qui est donné, un accompagnement.
Pas nécessairement. En fait, tout ce qui va m'être dicté, je vais m'autoriser à le retranscrire directement, ou à le modifier, ou à le commenter, ou à l'écrire à la première personne, ou à l'écrire à la troisième personne, ou à parler de bien autre chose. Et j'ai un dispositif qui me permet d'imprimer en direct sur des très longues bandes de papier des textes et de les afficher immédiatement. Donc l'idée, c'est qu'ensemble, pendant ces trois jours, avec les passants qui vont s'arrêter à ma table, nous produisions quelque chose qui va faire texte, éphémère et installation. Donc tout est à construire, rien ne préexiste, si ce n'est le dispositif que j'ai mis en place.
Alors vous êtes installé à quel endroit, Manosque ? Pour l'instant, vous ne l'êtes pas, mais vous allez vous installer dans quelques minutes.
Oui, je vais aller m'installer tout à l'heure. Du coup, les gens pourront venir à partir de 15h sur la place de l'Hôtel de Ville.
Très bien, donc on pourra vous voir. Fermons la parenthèse et vous êtes présente jusqu'à la fin des correspondances, c'est bien ça ? J'ai bien compris ?
Tout à fait, jusqu'à dimanche.
Depuis quand est-ce que vous faites ce travail, ce métier d'écrivaine publique ?
Alors là, ce métier d'écrivaine publique, je l'inaugure pour les correspondances de Manosque.
Oui.
C'est quelque chose que j'avais déjà tenté il y a quelques années, mais avec une forme différente. Ça se passait la nuit et en vidéo projeter les textes sur des grands murs. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose qui m'intéresse, qui est comment est-ce qu'on fait exister le texte, qui est du texte très simple, du texte quotidien, mais en dehors du livre. Comment le texte peut occuper de la place dans l'espace public, comment il peut aller s'insérer partout et tout le temps, et comment le texte peut être lu en dehors du livre, qui est évidemment l'espace privilégié du texte, mais qui n'est pas le seul espace qui est accaparable. Donc tout ce qui est possible, j'ai des petites machines à écrire des petits bouts de texte sur des autocollants, des embosseuses qui peuvent se coller.
On a bien compris que vous êtes...
Et tout ça, ça se fait en direct.
On a compris que vous êtes une bidouilleuse de génie, en quelque sorte,
de
pour
génie,
ce genre
je
de
ne sais pas, mais j'aime beaucoup le bricolage du quotidien.
Vous êtes dans le monde de l'écriture, de la littérature, depuis longtemps. Là, je tourne ma question un petit peu différemment, puisque vous avez répondu aussi à la première.
Alors, je travaille dans le monde de l'art depuis longtemps, mais j'ai un parcours un peu atypique qui fait que je suis plutôt musicienne de formation. J'ai beaucoup travaillé dans le champ de l'art contemporain. J'ai été muséographe, j'ai enseigné à l'université et toutes ces pratiques-là ont toujours été travaillées par la question de l'autre qu'on peut appeler public, mais qu'on peut appeler lecteur, qu'on peut appeler auditeur, des gens en fait. Et ce qui peut être transversal à tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est du coup tenter de mettre en œuvre quelque chose du rapport à l'autre en direct. Donc là, c'est le cas parce qu'on parle de co-écriture.
Donc une rencontre avec le public tous les jours et puis une production avec ce public, une production qui va s'afficher, si j'ai bien compris également. Et donc ça, c'est une bonne chose. Alexandra Maillard, donc on vous retrouve tous les jours à partir de 15h, c'est ça?
Alors cet après-midi à partir de 15h et les matinées, a priori on va voir, parce que demain il y a un marché sur la place de l'Hôtel de Ville. Donc, il est possible que je me déplace, mais en tout cas, je serai dans le centre.
Je vous rassure, le marché, c'est le matin.
Oui, mais le matin, je
vous êtes aussi
suis ouverte, j'ouvre boutique.
D'accord.
Dès le matin, à partir de demain.
Très bien, bon, on pourra acheter du fromage et des fruits, et puis à côté, faire une lettre d'insulte
faire
si on a envie.
Et faire du texte au kilomètre.
Merci beaucoup Alexandra Maillard d'être avec nous. Je signale que votre activité se déroule dans le cadre du festival Off des correspondances, et c'est une excellente chose. Ça nous permet de découvrir des propositions assez curieuses et très intéressantes, comme la vôtre par exemple. J'espère que vous aurez un très bon accueil de la part des Manosquins et de nos visiteurs pendant ce festival. Vous restez avec nous si vous le voulez, sinon vous pouvez également nous quitter, mais en tout cas j'étais ravi de faire votre connaissance. Et nous allons nous tourner vers notre dernier invité, il s'agit de Lorenzo Flabi. Bonjour.
Bonjour.
Ravi
Bonjour.
De vous accueillir ici même. Vous êtes un des responsables des éditions Lorma. Vous êtes, on l'a entendu un petit peu dans avec votre accent, vous êtes italien.
Oui, je confirme.
Et vous pratiquez très bien le français, vous avez vécu en France, vous avez aussi monté cette édition très très particulière qui propose une collection spéciale qui s'appelle Les Plis.
Voilà.
En fait, ce sont des correspondances, mais que l'on peut envoyer aussi, ce sont quasiment des cartes postales. Expliquez-nous.
Alors, c'est vrai, avec Marco Federici Solari et tout le reste du groupe des éditions Lorma, on s'était aperçu qu'on ne recevait désormais dans la boîte à lettres que des choses à payer ou sinon de la publicité. Et on s'est dit, mais tu te rappelles quand on était au collège, quand on s'envoyait des cartes postales, on allait en vacances, on s'écrivait, j'étais à Paris, je pensais à toi et tout ça. Qu'est-ce que ce serait beau de recevoir encore quelque chose de si joli dans nos boîtes à lettres? On a pensé, pourquoi pas ne pas y mettre à l'intérieur d'une enveloppe des lettres qui ont été écrites par des grands âmes, des grands penseurs, des grandes penseuses, des écrivains et tout ça. Et on a au fur et à mesure suivi cette idée jusqu'à arriver à ces objets qui ont effectivement un peu la forme des cartes postales.
C'est la taille d'une carte postale,
exactement.
De tout petit paquet en fait, voilà. Parce qu'à l'intérieur il y a beaucoup de correspondances, effectivement.
C'est ça, et la taille et le poids ont été choisis pour pouvoir l'expédier dans la boîte à lettres avec un tampon simple, et donc un timbre simple. Et donc à la quatrième des couvertures, il y a la place pour écrire l'adresse de la personne auquel on pense, quelques mots d'accompagnement. Il faut bien évidemment... comment dire, surpasser le tabou d'écrire sur la couverture d'un livre, parce qu'il faut écrire l'adresse, donc quoi qu'il soit. Et à l'intérieur, donc, comme on disait, il y a effectivement des sélections d'épistolaires, des grands hommes, des grandes femmes.
Alors effectivement, alors là, il y a une galerie qui est magnifique. Attendez, excusez du peu. On a par exemple Emily Dickinson, qui est un ouvrage magnifique, qui a été interprété d'ailleurs par Loudoyant hier soir sur scène. Donc ce personnage... magnétique, magique d'Emily Dickinson, recluse, grande poétesse américaine, inconnue de son vivant, qui a publié 4 ou 5 poèmes, pas plus de son vivant, et qui a vécu toute seule dans son coin, une rebelle, mais solitaire. Ouais. Et donc, vous avez par exemple les échanges épistolaires entre des gens qui l'ont marqué, des gens qui... peut-être un amant, mais on n'est même pas sûr, l'histoire ne le dit pas, et c'est bien de garder ce mystère. Ça, c'est pour Emily Dickinson, et on comprend mieux d'ailleurs sa démarche, son art.
Oui, c'est vrai que parfois, à travers les lettres, on arrive à avoir des aperçus de la vie de ces personnes qui sont difficiles à voir en lisant quelle est leur œuvre. Et donc, on pense aussi que pouvoir traverser oui, les lettres, les épistolaires, c'est une façon de rentrer dans l'œuvre et dans la vie d'un personnage de cette envergure, comme celle de Aimé Dickinson que vous évoquez.
C'est une belle ouverture, ouais, effectivement. Ouais, hein. Ouais, ouais. Effectivement. Alors avec, par exemple, y a Virginia Woolf, il y a Stendhal, il y a Voltaire, Leopardi, tiens, ça vous parle, Pessoa, et puis Verdi, pourquoi pas, Nietzsche, Lovecraft, Edgar Allan Poe, Shelley. Il y a comme ça une galerie de personnages qui sont, oui. Qui sont des grands auteurs, enfin, oui, des grands intellectuels.
C'est ça qu'on a décidé de travailler, disons, sur des icônes. Donc, à chaque fois, c'est des experts, des différents auteurs qui s'occupent de la sélection, de l'introduction, parce que c'est ça aussi. On y tient beaucoup à avoir des livres qui soient suffisamment beaux pour être expédiés comme un cadeau, plus beau encore pour en acheter et les garder pour soi-même, évidemment, mais même pour...
Ça, je vous garantis que ça va se vendre, hein, parce qu'effectivement, c'est très original.
J'espère, oui. J'espère, il faut dire. Désormais, il y a déjà quelques 17 titres qui sont sortis, et 3 titres qui vont sortir au mois de novembre avec les épistolaires de Apollinaire à Louise de Coligny pendant la guerre. Donc, c'est un épistolaire... d'amour, d'un amour nouveau, comme récite le titre. Je vais t'aimer d'un amour nouveau. C'est la promesse que Guillaume Apollinaire fait à Louise de Coligny en 1914. Oscar Wilde sortira et Marie Curie. Donc, c'est les trois plis qui vont sortir.
Alors, si j'ai bien compris, vous vous attaquez au XXe siècle.
Ouais.
C'est une bonne chose. Vous savez qu'on a un grand écrivain ici à Manosque qui a énormément écrit et qui a beaucoup reçu de lettres. Peut-être qu'un jour, dans la collection de Lorma, on aura un volume Jean Giono, qui sait.
Ah oui, c'est tout à fait dans nos horizons, donc qui sait. Mais là, je ne peux pas évidemment trop dire, mais c'est tout à fait dans nos horizons. Et pour des personnes, personnages, écrivains, penseurs comme Giono, c'est de plus en plus intéressant. Je pense par exemple que parfois il y a d'auteurs... que quand on les regarde dans leur vie intime, parce qu'il faut même avoir une certaine, comment dire, déontologie dans la sélection des lettres, ne pas choisir des lettres que parce qu'elles sont trop privées et donc ça s'intéresse. Non, il faut choisir des lettres avec une bonne harmonie entre l'intérêt commun d'une pensée qui se développe à travers l'écriture épistolaire et des épisodes biographiques. Il y a des écrivains qui sont toujours à la hauteur d'eux-mêmes, comment dire, par exemple Stendhal ou Victor Hugo, pour rester en France. Je pense que c'est deux hommes qui étaient très similaires à l'image de grandeur de leur œuvre. Donc Stendhal était un homme très sage et très heureux, si on peut le dire, et Victor Hugo d'une générosité intellectuelle humaine formidable. Alors que parfois, c'est pas toujours le cas. Dans quelques occasions, on peut voir, par exemple, j'ai fait un petit exemple sur un auteur vénéré comme Charles Baudelaire. Dans ses lettres, Baudelaire n'est pas le grand homme. C'est souvent un homme qui a des dettes, qui a envie d'être publié dans une revue, dans un magasin, qui vient de sortir, qui pour lui c'est plus prestigieux que l'autre, et qui fait un peu ses avec un peu d'escamotage même pour s'enfuir des gens auxquels il doit de l'argent. Et donc on suit même les difficultés de la vie d'un homme qui était, on peut le dire, un précaire de la culture au XIXe siècle.
Alors Lorenzo, on va rentrer un petit peu plus en détail dans votre travail de sélection et puis d'écriture, parce que vous écrivez également dans le cadre de cette collection. Par exemple, je parlais d'Emily Dickinson tout à l'heure, on a des échanges épistolaires entre Emily Dickinson et des confidents, et des amis, des parents. Et on a par exemple Samuel Bowles, on a Susan Huntington Dickinson, qui est sa belle-sœur, on a aussi John Longgraves, Thomas Wentworth Higginson, Elizabeth Gilbert Holland, et puis Abia Root. Enfin, il y a beaucoup de personnes, évidemment, Otis Phillips Lord. Donc, ce sont des gens qui ont compté pour Emily Dickinson. Comment vous avez sélectionné ces lettres que vous allez publier, que vous avez publiées?
Alors, la sélection du pli d'Emily Dickinson a été opérée et faite par Marco Federici Solari, qui est un expert de littérature anglaise et allemande. Donc,
c'est votre complice de créateur.
C'est hein? mon exactement, c'est mon principal complice des éditions Lorma. On est deux comparatistes, c'est-à-dire qu'on a fait, on s'est connus à l'époque, on rédigeait nos thèses en littérature comparée. Moi, j'étais à Paris 3, lui, il était à l'université de Tübingen en Allemagne. Mais on s'est rencontrés en Italie, on allait vivre en Allemagne. Mais ce n'est pas ça, peut-être, qui intéresse en ce moment les gens qui nous écoutent. Et juste pour revenir à Emily Dickinson, comme vous disiez tout à l'heure, cette panoplie de personnages, des destinataires de ces lettres, va construire, comme les fragments d'un puzzle, une vie qui est beaucoup plus complexe, c'est qu'on pourrait penser avec le stéréotype d'une Emily Dickinson qui n'était qu'une femme isolée du reste du monde. Ça, c'est vrai. Elle a décidé, à partir de ses 32 ans, de ne pas en sortir de sa propriété. Donc,
voire de sa chambre.
De sa chambre, exactement. Donc, c'est vrai, effectivement, que ses compagnons quotidiennes étaient les collines, les couchers de soleil et son chien, qui était gros comme elle, parce qu'elle était toute petite comme femme. Elle tenait à l'écrire souvent. Mais on s'aperçoit à quel point, dans la vie intérieure d'une personne comme Emily Dickinson, peuvent se produire des aventures, une intensité de l'existence, des brûlures telles que n'importe quel capitaine d'aventure n'aurait pas pu vivre tout ce qu'elle a vécu.
Vous mettez des titres à vos ouvrages chaque fois. Je dis ouvrages parce que ce sont des ouvrages. Pour Emily Dickinson, par exemple, c'est « Un volcan silencieux, la vie ». Pour Fernando Pessoa, « Pourquoi rêver les rêves des autres ?», etc. etc. Vous ajoutez aussi votre touche en donnant des éléments documentaires très importants, ce que vous venez de dire sur les confidents, entre guillemets, d'Emily Dickinson, et en même temps, en retraçant très brièvement une biographie des personnes et leur vie, leur rencontre, de manière à pouvoir expliquer, tout en laissant quand même l'impression première aussi au lecteur des lettres, mais expliquer pourquoi ces échanges épistolaires.
Oui, c'est vrai. Alors d'abord, les titres sont toujours tirés des lettres, donc c'est des mots des auteurs, des autrices. Et nous, on essaye de donner tous les outils au lecteur dans une petite sélection. Il s'agit des livres des 64 pages qui peuvent se lire, je dirais, dans l'espace d'une heure, une heure et demie, deux heures. Mais on donne tous les outils pour pouvoir comprendre où cette lettre a été écrite, à qui, avoir les contextes, disons, et pouvoir donc tracer, soit, comme vous disiez, des éléments biographiques à propos de cet auteur, ou sinon, si on connaît déjà bien, si on est déjà des experts, par exemple, de Emily Dickinson, vous évoquez Pessoa, par exemple, Stendhal, par exemple. Stendhal, que la prudence est une triste chose, c'est une phrase qu'il écrit à une de ses amours malheureux, donc dans ce cas, avec l'invitation à ne pas être prudente, allons-y, fonçons dans cet amour, dans cette soirée magique, écrit à Milan d'ailleurs, dont il était commencé très amoureux de la ville de Milan. Et je pense que même un expert de ces auteurs, un expert qui a lu, relu, je ne sais pas, les rouges et les noirs, 100 fois, pourra trouver quelques éléments de nouveau, parce que on n'a pas toujours sous nos yeux tous les données précises pour savoir qu'est-ce qu'il faisait en ces moments-là, Stendhal à Milan, pourquoi après il est allé à Rome, à Naples, pourquoi il rentre en France, quelle était la relation avec sa sœur, par exemple. Il y a des lettres avec la sœur de Stendhal que j'ai trouvé magnifiques, on évoquait tout à l'heure, vous évoquez avec Cécile Coulon la place, disons, les rôles, à quel point une femme doit être traitée comme un homme, disons, c'était les mots de Cécile Coulon que je cite. Et Stendhal, c'est exactement ce qu'il conseille à sa sœur, qui était par contre plus traditionnelle, on peut dire, donc qui avait comme but un bon mariage à un moment donné. Et lui, il l'invite au contraire à se faire une culture, à voyager, il l'invite en Italie. Mais oui, tu arriveras à Milan, lui donne des bonnes adresses pour aller manger, pour aller dans les hôtels. Et ça, je trouve que dans une époque où les frères aînés pouvaient être, entre guillemets, parfois un peu le maître d'une sœur cadette, c'était une très belle attitude. Et il arrive donc à dire des choses qu'on peut retrouver parfois dans les mots, dans les phrases de ces personnages, dans ces grands livres.
Donc ça permet de mieux expliquer, ou mieux connaître en tout cas, mieux appréhender l'œuvre d'un auteur ou d'un artiste, quel qu'il soit, d'un poète. mais en même temps, vous accompagnez aussi le lecteur avec ses livres à expédier, hein, il faut le rappeler. C'est tout petit, enfin, c'est la taille d'une carte postale. Et en même temps, ça pèse. Combien ça pèse, Lorenzo, vous le savez?
Ah, ça, c'est à peu près. Le pèse. Précis, là, j'ai quand de ne pas me rappeler les grammes. Donc, lorsque je commets l'âme du chercheur, je préfère me taire plutôt que d'être approximatif. Donc, je vous reviendrai plus tard.
Disons que le poids est raisonnable.
Voilà, raisonnable. Voilà. Mais ça peut suffire un peu pour être expédié avec un timbre simple.
Exactement. Et le prix est à 7,95 €. C'est vraiment très abordable. Et puis, en même temps, imaginez-vous que vous envoyez un livre comme ça expédié avec, qui vous avait dit, Baudelaire tout à l'heure, prochainement.
Baudelaire, le titre, c'était « Comment ne pas payer ses dettes ?» Ou Guillaume Apollinaire, par exemple, pour comme lettre d'amour et même de érotisme. Il faut le dire, Apollinaire, sa relation avec Louise de Coligny.
Oui. Et donc là, c'est effectivement, quand vous envoyez ça à quelqu'un de votre choix, évidemment, il y a un message qui passe,
voilà,
qui est un message intelligent, qui est un message subtil, à la fois littéraire, voire sensuel, si vous envoyez du Apollinaire, par exemple. Et en même temps, c'est une volonté aussi de cultiver, de se cultiver. Et c'est une manière aussi d'échanger des thèmes littéraires, culturels particuliers.
Si, si, tout à fait. Même en parlant, par exemple, de Pessoa, dont vous avez lu donc les titres, « Pourquoi rêver les rêves des autres ?», c'est même une façon de parler, je sens, des rêves, de l'espace onirique de chacun de nous. Pessoa, c'était ce grand poète portugais qui commençait. Il a écrit avec une quantité de, pas exactement des pseudonymes, mais des hétéronymes. Il y a une différence assez subtile, mais importante. C'est-à-dire que le pseudonyme, c'est juste un autre nom qu'on peut utiliser pour signer nos œuvres, si on est écrivain ou artiste ou quoi que ce soit. L'hétéronyme, à différence de le pseudonyme, a toute sa biographie, toute une véritable biographie alternative. Donc, c'est un véritable avatar. Et Pessoa a écrit avec les noms de Ricardo Rey, Salvador Campos, Alberto Caeiro. Et il a écrit aussi des lettres avec ce nom. Donc, c'est des lettres avec des caractères différents. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment un peu comment réaliser des rêves de personnalités différentes, mais le faire dans la vraie vie. Après, on peut parler aussi d'une disons, tendance même schizophrénie de la part des Pessoa, bien sûr, mais ça devient moins intéressant. C'est plus intéressant du côté clinique, c'est le côté littéraire.
On va laisser les médecins là où ils sont.
Un peu, exactement.
Et on va rester entre amoureux de la littérature,
exactement,
si vous voulez bien.
Et de l'écriture, je suis d'accord.
En tout cas, c'est bien un auteur multifacette, et présenter ses facettes, c'est une bonne chose. Quelle est votre actualité dans le cadre de ce festival, Lorenzo? Vous avez, je crois, une rencontre.
On a une rencontre demain matin à l'auditorium avec Yann Nicole qui on va bavarder un peu sur la naissance de la maison d'édition qui est née, a commencé à publier en 2020 dans les plans du confinement, c'est-à-dire que nos premiers livres étaient censés sortir le 19 mars 2020 et donc c'était quelques jours plus tard le début du premier confinement. Et après, on a un peu suivi les différents moments de confinement parce que le deuxième groupe de plis était censé sortir au mois de novembre 2020. On était encore tous enfermés dans les maisons et tout ça. Donc, mais à partir de 2021, enfin, nos livres sortent quand ils doivent sortir dans les librairies. Et donc, les prochains, justement, les 5 novembre. Et on part demain matin à 11h avec Marco Federici Solari, un peu de ce qu'on vient de dire, du fait que la maison d'édition, donc les éditions Lorma, sont d'abord en Italie il y a une dizaine d'années. Donc, on est une maison d'édition en Italie qui s'occupe de littérature contemporaine, par contre, donc du XXIe siècle, française et allemande surtout, et un peu de la littérature italienne, bien sûr, avec quelques excursions dans les cas des lettres, dans la littérature anglaise ou américaine, ou même portugaise, comme on appelle ça, et on souhaite construire un catalogue dans les années à venir qui soit plus varié et complexe que celui des plis, mais les plis, c'est notre collection bijoux. Moi, je ne sais pas si je peux le dire, mais je continue à être amoureux de ces petits livres qu'on a vraiment conçu du début à la fin avec tout l'amour possible de la part d'un éditeur.
Et vous êtes évidemment en phase avec, je suppose, tous les festivaliers des correspondances. Donc on vous retrouve demain à 11h avec votre camarade Marco Federico et pour présenter les éditions Lorma et votre magnifique collection. Merci beaucoup, Lorenzo Flabi, d'avoir été mon invité. Et puis je vous souhaite un bon festival. Je remercie aussi Mathieu Marc qui est notre animateur qui a réalisé la régie. On se retrouve demain pour une émission encore avec des auteurs et on parlera des correspondances. Profitez de ce beau festival à Manosque. Bonne journée à tous et à demain.